Alors, je ferai deux parties. En première partie, j'essaierai de donner quelques exemples de ce qui est juste ou injuste. Et en deuxième partie, quelques principes, on va théoriser un peu, sur ce qui est juste ou injuste. Ce ne sont que des exemples, mais il pourrait y en avoir bien d'autres. Mais en introduction, je voudrais revenir sur ce mot juste. Est-ce qu'il y en a qui ont fait du latin parmi vous? Un petit peu, oui. Bon. Alors, juste, ça vient du latin justus, ou plus exactement justus, parce qu'il n'y a pas de j en latin, et qui signifie ce qui est conforme au droit. Ce qui est juste est conforme au droit et non à la force. En latin, il y a une grande expression, c'est justus dicere, dire le droit, car le droit à l'origine était oral avant d'être écrit. Justus, juste, c'était d'abord prononcer une formule. Et n'oublions pas que jurer et juger sont deux mots de même racine, ça vient de justus. Et prononcer une formule, dire le droit, c'était clore une querelle, énoncer une règle ou une décision qui met fin à un conflit. C'était aussi un serment religieux. Dire le droit, prononcer cette formule, avait un caractère religieux. Et il y a toujours, d'ailleurs aujourd'hui, une dimension religieuse dans les serments. Prêter serment, c'est faire référence à une autorité transcendante. Vous jurez de dire la vérité, vous jurez, par exemple, dans certains pays, sur la Bible, un témoin jure de dire la vérité. Pas un accusé, il a le droit de mentir, et son avocat également. Jurer, c'est dire qu'on va être conforme au droit. Et c'est dire les mots. Et mettre en mots, ça évite de mettre en acte. C'est-à-dire qu'on va essayer par des paroles de rendre la justice, de dire le droit, au lieu de se venger et de mettre en acte une parodie de justice. Alors, certains de vos parents ont peut-être eu cette expérience d'être jurés dans une cour d'assises, par exemple. Mais lorsqu'on est dans un jury d'examen ou de concours, on a aussi un petit peu la même expérience. On essaye d'être juste. Alors, être juste, c'est quoi? Ça peut se référer à des institutions ou à des personnes. Il y a des institutions qui sont justes, d'autres qui sont injustes. Certains d'entre vous ont peut-être appris certains éléments de John Rawls, un auteur anglo-saxon qui s'est beaucoup penché sur cette question de la justice. Mais on peut être une personne juste dans une institution injuste, et on peut être une personne injuste dans une institution juste. Hein. Je veux dire par là qu'il peut y avoir un régime parfaitement démocratique. Et il peut y avoir des élus qui ne sont pas du tout démocrates. Hein. N'oublions jamais que Hitler est parvenu au pouvoir dans un régime parfaitement juste et démocratique, la République de Weimar. Mais à l'inverse, il peut y avoir dans des régimes injustes des personnes justes. Et en cela, il faudrait bien se garder de mettre tout le monde dans le même panier et de croire que le monde est divisé en deux, un monde où règne la justice et un monde où règne l'injustice. Alors en première partie, on va voir trois exemples de ce qui est juste ou injuste. Le premier exemple, c'est la guerre. Y a-t-il ou non une guerre juste? C'est pas du tout évident, hein. Alors, la notion de guerre juste est beaucoup née au Moyen Âge, chez certains auteurs chrétiens, comme saint Thomas d'Aquin. Et bien sûr, on faisait référence aux croisades, aller délivrer le tombeau du Christ. Est-ce pour autant que les croisades étaient justes? Les croisés, en 1094, ont pillé Jérusalem et tué pas mal d'habitants. Et en 1204, ils ont pillé Constantinople et ils ont tué pas mal d'habitants. Alors que les habitants de Constantinople étaient des chrétiens comme les croisés, des chrétiens d'Orient, mais c'était toujours des chrétiens. Donc on ne voit pas trop ce qu'il pouvait y avoir de juste. Peut-être l'idée de la guerre était juste, mais son application en tout cas ne l'était pas toujours. Prenons un autre exemple, la Deuxième Guerre mondiale. Bon, faire la guerre à Hitler pouvait sembler une cause tout à fait juste, évidemment. Mais est-ce qu'on peut dire que tout était juste dans la Deuxième Guerre mondiale du point de vue des Alliés? Est-ce que envoyer des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, c'était juste? Est-ce que bombarder une ville comme Dresde en février 45 en tuant des dizaines de milliers de civils allemands, c'était juste alors qu'Hitler avait déjà plus ou moins perdu la partie? On peut hésiter beaucoup à ce sujet. Mais qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est injuste? Qui est juste ou injuste? Nous, on a partout des monuments aux héros de la résistance. Or, les résistants, on les appelait terroristes pendant la guerre. Mais n'oublions pas non plus que nous appelons terroristes les gens de Al-Qaïda, alors que dans certains pays musulmans, on les considère comme des martyrs. Donc la notion de juste et d'injuste est souvent assez relative. Toute guerre juste peut comporter des injustices. Mais il arrive que dans les guerres les plus injustes, il y a des gens qui se comportent justement. Alors, bien entendu, au sein de cette Deuxième Guerre mondiale, il y a ce qu'on appelle les justes parmi les nations, c'est-à-dire des individus, des personnes qui, au péril de leur vie, ont sauvé des Juifs. Alors, pourquoi était-il juste dans une société qui était injuste par son anti-judaïsme? Alors là, on peut en discuter énormément. Moi, j'ai eu la chance de connaître quelques justes parmi les nations. Pourquoi tel ou tel, là c'était un aumônier protestant, le pasteur Dumas, pourquoi était-il juste dans une société injuste? Mais il y en a bien d'autres qui appartenaient à d'autres confessions, qui étaient catholiques, qui étaient athées, peu importe. Qu'est-ce qui fait qu'un être humain, dans un monde injuste, peut se révéler juste? Je pense qu'il n'y a pas une seule cause, et qu'en définitive, la notion de justice et de lutte contre l'injustice fait appel à des couches très profondes de l'inconscient, de révolte contre l'injustice qui n'était pas forcément prévisible. En d'autres termes, celui qui est juste, à un moment donné, peut-être que dans sa vie précédente, dans les années qui précédaient ses actes de justice, rien ne le montrait, et qu'à l'inverse, il y a des gens qu'on aurait pu estimer justes qui se sont révélés défaillants. Alors le deuxième exemple, c'est le juste salaire. Qu'est-ce qu'un juste salaire ? Dans cette crise économique, on pourrait beaucoup en parler, avec les bonus des traders, les stock options. Et c'est un problème universel. Vous voyez, je suis chaque année au Bénin où je remets les bourses. Et le gouvernement béninois a voulu nommer un médiateur entre les administrés et les administrations. Très bonne idée. Sauf que le salaire de ce médiateur, c'est 100 fois le salaire minimum béninois. Sauf qu'il a 2-4-4 pour se déplacer, des frais de mission énormes, il voyage en première classe. Et au total, j'ai calculé que ce qu'il coûte au pays permettrait de faire vivre 2 ou 3 000 personnes sans problème. En d'autres termes, une idée juste. Avoir un médiateur pour résoudre des conflits entre administration et administrés peut se révéler profondément injuste dès lors que cette justice coûte hors de prix. Et on pourrait multiplier les exemples d'injustice au niveau des salaires. Quand on dit d'ailleurs qu'un salaire est un peu juste, un peu trop juste, ça veut dire souvent qu'il est étriqué. C'est-à-dire que le mot juste désigne alors quelque chose de précis, mais d'un peu insuffisant. On croit que c'est ajusté, mais en fait, ça ne permet pas beaucoup de vivre. Alors, bien sûr, il faudrait avoir une véritable échelle des salaires. Et d'ailleurs, ça a été prévu au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale en France. On a établi par convention collective dans le secteur privé ou par voie réglementaire dans le secteur public une échelle des salaires. Les fonctionnaires, peut-être vos parents, sont payés à telle et telle échelle, 700, 750, 800 par rapport à un salaire de base donné qui est de 320 et quelques, je crois. Ensuite, il y a des échelles lettres, donc chacun est placé à un certain niveau. Mais il y a des domaines où il n'y a pas beaucoup d'échelles. Et je rappelle souvent que quand Zidane était le footballeur bien connu, il gagnait au total, avec tous ses contrats, 100 fois le salaire du président de la République française. Alors, on pense ce qu'on veut du président de la République. Il y en a eu plusieurs en France, hein, d'ailleurs. Hein. C'était pas l'actuel. Mais est-ce qu'il est normal qu'un footballeur gagne 100 fois plus que le président de la République? On pourra dire que sa carrière est courte, d'accord. Mais regardez de très près, si vous suivez un peu le football, les salaires de la Ligue 1. Et vous verrez que ces salaires sont incompréhensibles. Il y a des salaires injustes. Je ne voudrais pas dire du mal de certains clubs. Mais regardez le classement à l'heure actuelle. Vous verrez que Lorient est devant PSG, loin devant même. Et que le budget de PSG est trois fois le budget de Lorient. Alors pourquoi? Pourquoi? Pourquoi des gars qui gagnent moins, la paire Gameiro-Vahirua à Lorient, marquent plus de buts que les gars du PSG? Alors peut-être qu'il y a un entraîneur juste. Cet entraîneur à Lorient, il s'appelle Gourcuff. Mais si vous dites Gourcuff en France, on vous parlera du fils qui est à Bordeaux et on vous parlera pas du père. Peut-être qu'un entraîneur juste peut avoir une échelle de salaire plus juste que dans des clubs où les entraîneurs passent, à chaque saison ça change, et on arrive à, en matière de salaire, des injustices. C'est important de citer l'exemple du football, parce que le football mondial est complètement endetté, hein, que ce soit le football anglais, allemand, français. Et vous remarquerez que ceux qui souffrent le plus de la crise sont souvent des footballeurs moyen, Ligue 2, etc., alors que les plus connus de la planète, les Ronaldinho, etc., eux, ils souffrent pas de la crise. Donc, un des effets de la crise, c'est de rendre probablement les salaires plus injustes. Mais je voudrais vous citer un autre exemple qui est assez curieux. Tenez-vous bien, c'est celui des salaires des prêtres, des évêques en France. Alors, aujourd'hui, c'est simple, ils gagnent tous la même chose, tous. Si vous aviez été dans cette salle il y a 50 ans, je ne sais pas si la salle existait déjà, l'écart de salaire entre le curé d'une grande paroisse parisienne et d'une paroisse de banlieue, le Raincy faisait à l'époque partie du diocèse de Paris, c'était 1 à 10. Il y avait des enterrements de première classe, de deuxième classe, et dans les paroisses très aisées, ben, les curés gagnaient énormément. Aujourd'hui, ils gagnent tous pareil, les évêques gagnent tous pareil. Mais si vous allez en Afrique, vous verrez qu'entre les prêtres et les évêques, il y a des écarts énormes. Mais je connais au Bénin un évêque qui roule dans un superbe 4x4, qui vaut 50 ans de salaire d'un prêtre africain. Ça ne choque personne là-bas, mais quand on a des jeunes coopérants ou volontaires de la délégation catholique à la coopération qui vont en Afrique, ils sont choqués de voir ces différences de salaire qui, encore une fois, en France n'existent pas, parce que tous les prêtres et les évêques gagnent la même chose, c'est-à-dire à peine le SMIC, vous voyez. Donc il peut y avoir des conceptions de la justice différentes selon les époques dans une même institution chrétienne et à la même époque, mais dans des pays différents relevant de la même institution. Alors, troisième exemple, après guerre juste et juste salaire, juste note. Ça vous intéresse, la juste note. Qu'est-ce qu'une juste note ? Alors, il y en a peut-être qui vont, après le bac, aller dans une classe préparatoire, je crois qu'il y en a quelques mètres d'ici. Bon. Vous pouvez très bien avoir 16 au bac, mention très bien, et dans une prépa, avoir 4 sur 20. Ça se voit. Surtout si c'est une prépa très huppée, type Sainte-Geneviève ou Île-Grand-Hachecate. Est-ce à dire que le 16 est injuste ou que le 4 est injuste ? Non. Simplement, les critères de notation ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'au bac, on est assez indulgent, tant mieux pour vous. Et dans les classes prépa, on n'est pas indulgent du tout. Bon. Maintenant, en France, on a beaucoup de mentions au bac et même pas mal de mentions très bien. Le pourcentage de reçus est de 87%. Moi, quand j'ai passé le bac, il y avait deux bacs, un en classe de première, un en classe de terminale. Et au total, même dans les meilleurs établissements, il y avait beaucoup d'échecs. À l'échelle nationale, il n'y avait pas 87% de reçus. Mais si on ajoute, il y avait en gros 60%. Et 60% en première, 60% en terminale, eh ben, ça faisait 6 fois 6, 36, il y avait plus de 60% d'échecs. Est-ce qu'on était juste ? Est-ce qu'on est injuste ? Non. Simplement, les critères de notation ne sont évidemment pas les mêmes du tout. Alors, vous allez me dire, on s'en fout pas mal, hein. Il y a 50 ans, on n'était pas nés. Bon, alors, vous allez passer le bac. Est-ce que le jury est juste ou injuste ? Alors, personnellement, je préside un jury. Jamais je ne reviens sur les notations des enseignants. Mais c'est parfois gênant. Prenons un exemple. Ça m'est arrivé deux fois. Et ça m'est arrivé avec les maths. Et les maths, en principe, c'est super objectif, soi-disant. Deux fois, il y avait un candidat qui avait 4 à l'écrit en maths. Il est allé à l'oral. Et deux fois, à l'oral, c'est tapé 16. Or, il y avait des points communs entre ces deux candidats. C'était deux années différentes. C'était des candidats qui présentaient bien, qui étaient bien habillés. Disons-le, qui était plutôt mignon. Et même un petit parfum. Les deux examinatrices étaient des femmes. Je pense qu'elles ont été un peu sensibles au charme du candidat. Une fois, c'était même limite, parce que le candidat avait pas répondu à la question. Il avait demandé une deuxième question, puis une troisième. C'était extrêmement limite. Il y avait un deuxième correcteur qui, lui, était plus sévère et qui n'était pas du tout sur cette longueur d'onde. Mais l'enseignante a maintenu son 16 envers et contre tout. Moi, je ne l'ai pas contredite. Tant mieux pour le candidat, évidemment. Est-ce que c'était juste ou injuste ? Je n'en sais rien. Mais j'ai eu une affaire encore un petit peu plus délicate. C'était cette fois-là un jury de L. Et c'était en philo. Il y avait deux correcteurs de philo, un qui notait à peu près normalement et un qui surnotait d'une manière incroyable. Alors je vous dis tout de suite que les enseignants qui posent le plus de problèmes ne sont pas les enseignants sévères, mais ce sont les enseignants exagérément indulgents. Il avait mis plusieurs vins en philo. Déjà, pour mettre des vins en philo, c'est pas évident. Et il y avait vraiment une différence de notes importante entre les deux correcteurs de philo. Problème. Il aurait fallu faire recorriger toutes les copies, et ça voulait dire qu'on ne pouvait pas rendre les résultats en temps voulu. Et ça voulait dire, comme on approchait du 10 juillet, que c'était quasiment impossible. Le résultat, j'ai dit, on maintient les notes. Après la délibération et la publication, il y a un candidat qui est venu me voir. C'était un élève du lycée Hélène Boucher, qui est un bon lycée du 20e arrondissement à Paris, qui m'a dit, monsieur, j'ai mention bien. Je lui dis, c'est bien. Ah, elle me dit non, parce que, voilà, je veux faire Sciences Po Lyon, avec mention très bien, j'aurai pas d'examen à passer. Avec mention bien, je dois passer un examen. Je prends sa copie de philo, il avait 7. D'habitude, durant l'année, il avait 13 ou 14. Je lis très attentivement sa copie de philo. Je dois dire que sa copie n'était pas excellente. Mais surtout, il y a eu une phrase qui a bloqué le correcteur, à mon avis, et le correcteur a été un tout petit peu sévère. Problème, si je demandais à ce qu'on relève sa note, on aurait dû relever les notes de tous ceux qui avaient été corrigés par ce correcteur-là, et donc il fallait refaire tous les calculs, et il aurait fallu 2 ou 3 jours, donc c'était pas possible. C'était un tout petit peu injuste, il a eu son bac avec mention bien, mais j'étais hyper désolé, mais sinon il fallait reprocéder à l'examen de 300 copies, c'était quasiment impossible. Vous voyez que c'est pas évident d'être juste, simplement ce que je vous dirais, c'est que là, il y a un cas où la justice, c'était un peu vers le bas, et il y a eu 2 cas, la justice a tiré un peu les notes vers le haut, et je peux vous rassurer tout de suite, quand le bac est injuste, c'est dans la grande majorité des cas, dans le sens de l'indulgence. Bon, voilà pour ma première partie sur exemple de ce qui est juste, mes 3 exemples. Alors, on pourrait bien entendu multiplier les exemples, sur, par exemple, la justice, alors au sens du tribunal, qu'est-ce qu'une peine juste, qu'est-ce qu'une peine injuste, qu'est-ce qu'une sanction juste, qu'est-ce qu'une sanction injuste, mais je crois que vous n'avez pas encore fait de droit, je ne voudrais pas trop anticiper sur le programme du supérieur pour ceux qui feront droit. Je me contenterai juste de dire à ce sujet-là que le premier auteur à avoir essayé de définir ce qui est juste et pas juste, c'est un Italien du XVIIIe siècle qui s'appelait le marquis de Beccaria et qui a écrit un traité des délits et des peines qui a été publié avec les livres du Monde il y a 15 jours. Et c'est la première fois au XVIIIe siècle qu'on a essayé de définir l'idée de ce qui était juste et pas juste en droit pénal, et dans le sens d'une plus grande indulgence par rapport à ce qui se faisait à l'époque. Alors maintenant, deuxième partie, principe de ce qui est juste. Alors, je reviendrai en premier point sur cette distinction entre les institutions et les personnes. C'est un point capital parce qu'il y a ceux qui vous diront toujours « ça sert à rien d'être juste, si le système est injuste, il faut changer le système ». Et il y a ceux qui vous diront « on peut toujours attendre de changer le système, on risque d'attendre pendant des siècles, donc il faut essayer d'être juste en corrigeant ce que le système a d'injuste ». Si vous dites « le système est injuste, il faut le changer », c'est forcément un bouleversement, c'est une révolution. Si au contraire vous dites « le système est injuste, tant pis, il faut évidemment essayer de faire quelque chose individuellement », à ce moment-là, vous avez un système qui est beaucoup plus centré sur la personne que sur l'institution. Et tout système centré sur la personne est généralement un système avec des références religieuses. C'est-à-dire, une personne peut être juste dans un monde injuste parce qu'elle fait l'effort d'être juste ou parce qu'elle a reçu la grâce d'être juste. Est-ce qu'on peut être un saint ou un héros de la justice au sein d'un monde injuste ? Alors, puisqu'on est au Rinci, je ne prendrai qu'un seul exemple, c'est Albert Schweitzer, puisque je crois qu'il y a un lycée Albert Schweitzer au Rinci. Eh bien, la réponse est loin d'être évidente. Elle est loin d'être évidente. Parce qu'Albert Schweitzer était un protestant, un théologien, un musicien, il faisait des tas de choses, un peu trop peut-être, mais aussi un médecin. Et il a voulu s'occuper à l'Ambaréné, au Gabon, d'un certain nombre de malades, ce qui était éminemment juste, mais ce qui n'empêchait pas le système à l'époque coloniale d'être injuste. Alors, est-ce qu'on pouvait, au sein d'un système colonial injuste, pratiquer une médecine gratuite qui était juste ? C'était toute la problématique d'Albert Schweitzer. Et la réponse n'est pas du tout évidente, parce qu'un certain nombre d'Africains étaient convaincus de sa justice est convaincu qu'il a amélioré profondément le sort des gens qu'il soignait, et d'autres, à l'inverse, n'en étaient pas éminemment convaincus. Alors, ça a des prolongements à l'heure actuelle, des prolongements extrêmement complexes. Je vais vous donner un exemple. Bon. Soit, par exemple, des médecins, des chirurgiens qui opèrent en France des enfants qui souffrent de pathologies cardiaques gravissimes. Ils leur sauvent la vie. Ces opérations, même si les chirurgiens le font gratuitement, vont coûter des dizaines de milliers d'euros par opération, parce qu'il y a tout un processus en amont et en aval très coûteux et complexe. Dans le même temps, opérer en France un petit tchadien, si ça coûte 10 000 euros, peut-être vous sauvez une vie, mais avec 10 000 euros au Tchad, vous sauvez 100 vies. Parce qu'il faut savoir que le coût des soins en Afrique est incomparablement plus bas. Alors, qu'est-ce qui est plus juste ? Aller sauver un petit Tchadien en l'opérant en France ou le laisser mourir là-bas et soigner 100 petits Tchadiens qu'on va sauver de la mort ? Alors, vous allez me dire, il faudrait les opérer sur place. Oui, mais il n'y a pas les chirurgiens et il n'y a pas les infrastructures. Là où ça devient totalement injuste, c'est quand le petit Africain opéré en France rentre dans son pays et qu'un an ou deux ans plus tard, il va mourir tout simplement de paludisme. Ça n'a pas servi à grand-chose. Alors je dis tout de suite, c'est un cas fréquent. Mais il y a des gens qui s'en sont inquiétés. Et je voyais par exemple une famille d'accueil en France d'un de ces petits Africains opérés du cœur, qui est rentré dans son pays, c'était le Mali. Et cette famille d'accueil a dit, mais au fond, moi, je m'en suis occupé pendant 3 semaines, j'ai logé chez moi le temps de sa convalescence, il rentre là-bas, il va être mal soigné, il va mourir ou il va avoir une vie épouvantable. Et elle a eu l'idée de prendre contact avec une ONG qui s'appelle le Village d'Enfants SOS, où l'enfant a été admis. Donc, elle a eu conscience, cette dame, qu'on croyait faire une œuvre juste qui pouvait se révéler vaine et qu'il fallait peut-être assurer un suivi beaucoup plus grand. Et j'en arrive, après institution, personne, à ma deuxième sous-partie, justice, charité, c'est l'éternel problème. Qu'est-ce qu'il faut préférer, la justice ou la charité ? Ça renvoie à un autre débat. Est-ce que les organisations non gouvernementales, les ONG, peuvent instaurer la justice alors que les États sont injustes, corrompus ? Je vous dis tout de suite que ma réponse est nuancée. Les ONG, c'est très bien, mais les ONG sans État, ça ne sert pas beaucoup, malheureusement. En d'autres termes, la charité est utile, et elle peut contribuer à rétablir la justice, mais pour que règne une certaine forme de justice, il faut qu'il y ait un État efficace. Pour reprendre l'exemple de la santé que nous donnions tout à l'heure, il faudrait pour bien faire qu'il y ait dans les pays du Sud des systèmes de sécurité sociale, même embryonnaires, qui permettent de répartir la charge financière des soins. Or, c'est pas du tout évident de dire ça, parce qu'on s'aperçoit en France qu'on est souvent quêté, on a toutes sortes d'appels de fonds, toutes sortes de fundraising. On ne nous dit pas toujours à quoi sert l'argent qui est collecté, et surtout ce qu'on ne nous dit pas, c'est que dans certains cas, si cet argent est dépensé dans des pays où il n'y a pas d'État qui instaure un minimum de justice, la charité ne doit servir à rien. En d'autres termes, il doit y avoir une complémentarité entre la charité et la justice qui donne à la charité sa meilleure efficience. Le problème, c'est que sensibiliser des Européens à des notions aussi complexes que l'État en Afrique, c'est pas du tout évident, parce que si l'État fonctionne mal en Afrique, c'est pour des raisons extrêmement complexes, et je vous dis tout de suite, ça remonte au 3e millénaire avant Jésus-Christ et à la désertification du Sahara. C'est-à-dire que tous les progrès qui ont été accomplis en Asie et en Europe, l'État, l'écriture, les lettres, les chiffres, le droit, Tout ça s'est arrêté au niveau du Sahara. Ça n'a pratiquement pas pénétré dans le sud, sauf quelques caravanes au travers du Sahara. Mais en gros, l'Afrique a eu plusieurs millénaires de retard à cause de cette désertification. Il y a des villes en Afrique où l'écriture n'est arrivée qu'en 1930 ou 1940. Alors vous allez me dire, s'il n'y a pas d'État en Afrique qui fonctionne, si l'État est corrompu, si souvent il est inexistant, c'est pas de la faute des Africains. Maintenant, si ça remonte à des causes qui ont 3000 ans, ça va pas s'améliorer comme ça rapidement. Donc il faut se résigner à l'injustice de l'État, à l'inexistence de l'État dans bien des cas. Donc il faut que les ONG fassent de la charité parce qu'il n'y a pas d'État. C'est pas si simple que ça. D'abord, on ne peut pas se résigner à l'absence d'État ou à l'inexistence d'État efficace. Ensuite, il peut y avoir des cas remarquables. Il y a en ce moment à l'École supérieure des mines de Paris, qui est une école très calée, un jeune béninois, Titio Kossi, qui a fait ses prépas à Louis le Grand, et qui vient de Natitingou, une petite ville du nord du Bénin, où l'écriture est arrivée en 1940. Il n'y avait pas d'écriture avant 1940. Elle est arrivée par des pasteurs protestants américains, et son grand-père, qui est toujours en vie, a été le premier habitant de sa ville à savoir lire et écrire. Ça veut dire qu'en deux générations, on a pu faire un saut extraordinaire. C'est passer d'une société analphabète à une société extrêmement instruite. Donc il ne faut pas désespérer. Mais de là à ce que l'ensemble de ce pays, le Bénin, j'aurais pu parler du Togo, c'est à peu près pareil, arrive à un niveau de compétence qui permette l'établissement d'un véritable État, ça, il faudra peut-être encore plusieurs générations. Enfin, troisième point, je voudrais revenir un petit peu sur le plan des principes, toujours, à la distinction entre justice et justesse. On peut dire que le métier d'ajusteur, par exemple, vous indique qu'il faut beaucoup de précision dans, je dirais, l'enchaînement, dans l'ajustement des pièces, parfois au micron près. Ce qui signifie très clairement que dans l'idée de juste, il y a une idée de mesure. Il faut une suffisance, il faut une adéquation, il faut une proportion. Ce qui est juste est modéré et proportionné. Le problème de la mesure est extrêmement complexe. Parce qu'il y a une mesure scientifique et une mesure psychologique. Et ce n'est pas tout à fait pareil. Vous pouvez ajuster des pièces au micron près qui vont vous donner un moteur qui fonctionne bien. Mais sur le plan de la société, ajuster un certain nombre de dispositifs, d'institutions, d'organismes, pour que l'ensemble fonctionne correctement, c'est loin, très loin d'être évident. Pour prendre l'exemple de l'éducation nationale, entre le ministère, les rectorats, les inspecteurs d'académie, les établissements, il y a un certain nombre de rouages. Or, l'ajustement de ces rouages entre eux ne relève pas d'une précision millimétrique, mais d'un autre type de processus institutionnel, sociaux, juridiques, psychologiques, qui fait que ça peut fonctionner ou ça ne peut pas fonctionner. Si je prends l'exemple des établissements, si les proviseurs changent tous les deux ans, ça ne marche pas. Les établissements qui marchent bien sont ceux qui ont des chefs d'établissement qui restent longtemps. Bon. Les académies qui marchent bien, c'est pareil. Bon, il se trouve que le recteur de Créteil a changé, il était là depuis 18 mois. Je le connaissais bien. Entre nous soit dit, c'est un peu moi qui lui ai appris ce qu'était son académie. Bon. Mais oui, 18 mois, comment voulez-vous? Pour qu'une académie aussi complexe et difficile que Créteil fonctionne, il faudrait qu'il y ait un recteur qui reste au moins 5 ans. Allons à l'échelon au-dessus, le ministère. Vous savez bien que les ministres de l'Éducation nationale restent pas très longtemps. Mais c'est pareil. Pour bien connaître son ministère, il faudrait que les ministres restent 5 ans. En d'autres termes, pour introduire une certaine justice, il faut un ajustement des responsables et des institutions qui se fasse sur une longue durée. Sinon, c'est totalement impossible. Et c'est fort compliqué à faire. Et l'injustice engendre l'injustice et l'injustice, l'injustice. Si vous regardez un petit peu, là je vais parler de l'enseignement public parce qu'on va pas... Peut-être, mais ce serait pareil pour l'enseignement catholique, je pense. Si vous regardez les établissements qui ont les proviseurs qui restent les plus longtemps, c'est les établissements sans aucun problème. Si vous regardez les établissements dont les proviseurs changent sans arrêt, c'est les établissements à gros problème. Le record de France, je crois, dans le public, était le lycée Michelet à Vanves, qui a eu un proviseur pendant 20 ans. Mais, peut-être un peu plus même, ouais. Mais si vous allez dans les grands établissements bien connus de Paris ou des villes de province, les proviseurs restent 8-10 ans. Je connais des établissements à Paris, en banlieue ou ailleurs, qui ont eu en 10 ans 5 proviseurs. Mais comme par hasard, c'est les établissements les plus difficiles dont les chefs d'établissement vont demander leur mutation. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que le bon ajustement entre une institution nationale, régionale et locale relève de processus qui ne sont pas uniquement du domaine de la précision millimétrique ou du calcul arithmétique. Toujours dans ce domaine justice, justesse. Si vous prenez la proportionnalité des peines, normalement, une peine doit être proportionnée à la gravité de l'acte. Mais quand vous avez une campagne d'opinion publique à propos de tel ou tel crime ou délit, il y a toujours une tendance pour la justice à exagérer la peine, c'est-à-dire qu'on va répondre à une demande de l'opinion et, comme on dit, on va matraquer, on va avoir une sévérité qui est hors de l'échelle normale des peines ou de la graduation normale des peines. Je faisais encore hier une conférence devant des magistrats, devant tout tribunal, que ce soit pour mineurs ou pour majeurs d'ailleurs, il y a une certaine jurisprudence, il y a un certain usage, on dit pour tel ou tel type d'acte, en gros c'est ça le tarif. Bon. Et puis il y a des campagnes d'opinion, donc c'est d'ordre psychologique, qui vont vouloir que, brusquement, pour tel ou tel type de délit ou de crime, on soit beaucoup plus sévère. Alors, l'exemple classique, c'est les viols des femmes ou également les abus sexuels sur mineurs. Il y a 30 ou 40 ans, ces affaires-là n'étaient souvent pas connues de la justice. Et lorsqu'elles étaient connues, il y avait peut-être une certaine indulgence. Bon, maintenant, il y a une campagne d'opinion extrêmement sévère à propos de ces crimes et délits. Et du coup, il y a une tendance inverse. Ce qui fait qu'on voit, par exemple, des condamnations pour viol plus sévères que des condamnations pour meurtre ou assassinat. En d'autres termes, il vaut mieux tuer que violer, ou à la limite, te tuer après avoir violé. Donc on en arrive à des anomalies dans l'ordre de la graduation des peines. Si vous regardez les statistiques de la chancellerie du ministère de la Justice, on s'aperçoit qu'il y a des types de crimes et délits dont la sanction est de plus en plus sévère, c'est d'ailleurs le cas général, mais dont la sévérité est plus grande que pour d'autres types de délits et de crimes, ce qui prouve bien qu'il y a des mécanismes psychologiques et médiatiques qui viennent fausser la notion de graduation de la peine. Bon, on va peut-être falloir que je conclue parce que vous avez plein de questions à poser. Et je voudrais essayer de conclure peut-être par quelques formules que je vais emprunter au latin d'ailleurs. D'abord, on peut dire que la notion de justice est mal à l'aise avec celle d'extrême. La notion de justice a besoin de modération et peut-être de modérateur. Alors, bon, il y a un exemple classique, c'est le jugement de Salomon, qui s'exprime ainsi en latin, in medio stat virtus, le courage est au milieu. Le problème, c'est que vous savez que ça marche peut-être dans de nombreux cas, mais ça marche sûrement pas dans le cas du Salomon, puisque l'histoire de Salomon, c'est deux mères qui se disputaient le même enfant, et Salomon dit, bon, ben, je vais couper l'affaire en deux, je vais couper le gosse en deux. Et bien entendu, c'est pas possible. Et la vraie mère dit, non, tant pis, donne-le à l'autre, mais je préfère perdre mon enfant que de le voir tuer. Donc, le principe du juste milieu, ça marche parfois, mais ça marche pas toujours. Dans l'affaire Dreyfus, ou bien Dreyfus était coupable, ou bien il était innocent, mais pas entre les deux. Donc le principe de modération est bon. Parfois, le principe, si vous voulez, de couper la poire en deux, qui est l'extrême de cette modération, ça marche et parfois ça ne marche pas. Autre proverbe latin ou adage latin qu'on peut souvent appliquer, mais pas toujours, c'est « modicum dum modo sic constans », petit à petit et ainsi constamment. C'est-à-dire qu'en cas de doute, il vaut mieux prendre des mesures progressives que des mesures brutales. C'est souvent ce qu'on fait avec, par exemple, le rattrapage des salaires. C'est-à-dire qu'on va faire un rattrapage étalé sur plusieurs années. L'avantage, c'est que ce principe va éviter la brutalité. Or, on sait que toute mesure brutale va engendrer des injustices. Le problème, c'est que ça peut marcher, mais ça peut ne pas marcher. Si vous prenez des exemples internationaux, vous avez le principe des sanctions que l'on prend contre tel et tel pays, qu'on peut aggraver progressivement. Mais on sait que ça peut pas marcher. Quand, par exemple, un pays en envahit un autre, qu'est-ce qu'on fait ? C'est le problème de 1939 quand Hitler envahit la Pologne. On ne peut pas dire on va prendre des sanctions un petit peu plus sévères à chaque fois. On est bien obligé de déclarer la guerre. Donc même le meilleur principe de riposte graduée ou progressive, dans certains cas, ça ne marche pas. Alors on pourrait multiplier les exemples de ce qui marche tantôt et ne marche pas toujours. On peut dire que pour la justice, il faut un effort durable. Ça, on est bien d'accord. Un effort durable, ça veut dire qu'il faudra pendant des années et des années maintenir la pression pour que telle ou telle situation demeure juste. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, il peut y avoir des cas où il y ait une mesure instantanée à prendre pour rétablir une justice. Si vous prenez l'exemple des femmes qui n'avaient pas le droit de vote, c'est extrêmement simple, il a fallu un beau jour, en France c'était en 1944, dire les femmes ont le droit de vote. C'est une mesure qu'on prend, c'est une ordonnance en quelques heures, et qui va avoir des effets sur les siècles à venir. Donc même là, on ne peut pas dire que la notion de durabilité de l'effort s'applique dans tous les cas. Par contre, il y a un principe qui me semble peut-être rassembler un peu tous les autres et qui est difficile à prendre en défaut. C'est le principe de l'universalité de la justice, c'est-à-dire le principe selon lequel tout être humain a droit à la justice. Alors, c'est un principe qui n'est pas évident. D'abord, les premières déclarations des droits de l'homme ne date que de la fin du XVIIIe siècle et concerne certains pays. Déclaration des droits américaine en 1776, déclaration des droits en France en 1791. Pour arriver à la notion d'universalité des droits de l'homme, il faudra attendre les déclarations de l'ONU en 1948. Et ensuite, il y aura les droits de la femme, les droits de l'enfant, etc. À partir du moment où on a fait le tour de la planète, on peut dire effectivement que tout homme, toute femme, tout enfant, quel que soit le pays, le continent où il vit, a droit à la même dignité, au même respect, etc., etc. Cette notion d'universalité de justice est celle qui repose sur la souveraineté des États, c'est-à-dire que tout État est souverain, quel qu'il soit, qu'il ait été colonisé, colonisateur, quelle que soit sa situation géographique, tous les États sont souverains et égaux, et à l'intérieur de ces États, tous les individus naissent et demeurent libres et égaux en droit, d'après la Déclaration française. La Déclaration américaine, c'est pas tout à fait ça. Men are created equal. Ce qui n'est pas tout à fait évident. S'ils sont créés, il y a un créateur. Eh oui. La Déclaration française est plus laïque. Mais à partir du moment où on a dit ça, il est clair que toutes les personnes sont égales, ce qui remet en cause les systèmes que nous, nous considérons comme injustes, mais qu'on considérait comme justes autrefois. Je pense au système des ordres sous l'Ancien Régime, les privilèges, noblesse, clergé, différents du tiers-État, ou les systèmes de castes et de sous-castes en Inde, où il y a des inégalités qui sont instituées, mais qui en Inde ont été supprimées par la Constitution indienne de 1950. Alors, je vais vous résumer ça par un tout petit peu de latin. Il y en a combien qui font encore du latin ? Hein ? Quelques-uns, c'est fini. Bon, allez, c'est bien. Homo sum, humani nil a me alienum puto. Homo sum, je suis un homme. Humani nil a me alienum puto. Rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Si vous regardez bien l'hymne européen de Schiller, qui est dans la 9e symphonie de Beethoven, l'hymne à la joie, il dit à peu près ça. Il y en a qui sont germanistes. Je vous signale que Schiller était citoyen français. Il a été fait français par la Convention. Donc c'est aussi un hymne d'un français. Dites le God Save the Queen, c'est quoi ? C'est anglais ou c'est français ? Hein ? Ouais, c'est français. C'est français. Ça s'appelait Dieu sauve le roi et ça a été composé par Lully pour Louis XIV à la demande de Madame de Maintenon. Quand je vous dis que rien n'est étranger, même le God Save the Queen et l'hymne de Schiller, ils ne sont pas étrangers à des Français. Merci de votre attention.